15h, 16h, Campus.
Julien Martin.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Europe 1 avec ce programme consacré aux vertus de l'amitié. Aujourd'hui, nombreux sont nos copains à être notre vraie famille, celle que l'on choisit. Nos amis sont pluriels, changeants, parfois exigeants, mais ils nous aident toujours à être meilleurs. Alors, chers auditeurs, vos témoignages et réactions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter avec le hashtag E1Campus. Ce dimanche, nous recevons un enfant du soleil dont la musique est l'oxygène. Chantre de l'amour et de la fraternité, ce chanteur et guitariste émérite aime à nous réunir depuis plus de 5 décennies. Enrico, présente-moi tes amis, je te dirai qui tu es. C'est parti. Merci d'accueillir et d'applaudir comme il se doit, Enrico Macias.
Merci.
Bonjour Enrico.
Bonjour Julia.
Bienvenue dans cette nouvelle version de Campus.
Merci beaucoup. En tout cas, j'ai un bon souvenir de nos précédentes émissions ensemble. Et vraiment, ça me fait plaisir.
Moi aussi, vraiment. Très plaisir de vous recevoir dans cette version différente.
En plus, vous appelez comme ma petite fille.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est un joli prénom.
Voilà,
et ben, on
très
l'embrasse.
Joli prénom.
On l'embrasse, votre petite fille. Alors, vos plus proches seront à nos côtés et ils vont nous aider à mieux vous connaître. Je rappelle que vous ne savez pas qui va nous rejoindre en studio. C'est une grande surprise que nous avons préparée. Est-ce que vous aimez les surprises?
J'adore les surprises, mais les plus courtes sont les meilleures.
Alors avant le défilé de vos amis, j'aimerais qu'on revienne à votre actualité. Vous venez nous parler de l'album Méditerranéenne de Julie Zenati, sur lequel vous chantez un de vos titres phares, le tout premier, à vrai dire, Adieu mon pays. On écoute un extrait.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison.
J'ai quitté ma mère, leurs souvenirs se réveillent.
Bien après mon adieu, soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Je vois encore ses yeux.
Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu.
Je revois son sourire, si près de mon visage.
Il faisait resplendir
les soirs de mon village.
Soleil, soleil
de mon pays perdu,
des villes blanches que j'aimais,
des filles que j'ai jadis connues.
Adieu mon pays. Enrico, cette chanson, vous l'avez écrite sur le bateau qui vous emmenait de l'Algérie vers la France. Et c'est une chanson qui fait écho à l'actualité, qui résonne toujours aussi fort en vous, en nous. C'est une très belle reprise. Elle est assez différente de l'original. J'aimerais savoir quels arguments a utilisé Julie Zenati pour vous convaincre de chanter avec elle.
D'abord, elle a fait un album sur la Méditerranée. Et en fait, elle a choisi Adieu mon pays comme un peu l'hymne de la Méditerranée. Et c'est vrai que une chanson est plus forte lorsqu'on a, on l'a fait avec une certaine authenticité. Et surtout après le drame des Pieds Noirs et des Harkis qui ont été obligés de quitter l'Algérie. Je suis devenu un petit peu le symbole de l'exil en écrivant cette chanson. Et je suis fier que des jeunes chanteuses comme Julie Zenati aient repris cette chanson qui est un peu la chanson qui m'a fait naître dans ma carrière. Si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est un peu beaucoup grâce à cette chanson.
Et Méditerranéenne, c'est aussi une véritable ode à la différence, à la tolérance, à la mixité, au multiculturalisme. Moi, j'y vois aussi un message de la part de Julie Zenati et de tous les artistes qui l'accompagnent, une forme d'engagement vers la main tendue, la solidarité, la fraternité.
Oui, c'est un petit peu ce que j'ai fait après Adieu mon pays. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Enfant de tout pays. Donc, Enfant de tout pays, c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'a fait Julie.
Méditerranéenne, c'est un album qui est sorti en mars dernier et que je conseille à tous les auditeurs d'Europe 1. Alors, dans un instant, Enrico, nous allons tenter de mieux vous découvrir grâce à vos amitiés. Mais avant, pour se remémorer votre parcours, je vous propose de vous tirer le portrait.
Le portrait en chanson, Julien Martin.
Mon cher Enrico, vous êtes un chantre de l'amour et de la paix, un chanteur et guitariste militant sur tous les continents pour la fraternité, un citoyen du monde qui accompagne nos existences avec ses mélodies gorgées de soleil.
On tape sur nos systèmes, on vit que tout le monde sème le soleil d'âme. Ce vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil.
Votre voix, votre accent, votre sourire et votre sincérité nous émeuvent, car votre carrière est intrinsèquement liée à votre histoire, la déchirure que vous avez connue avec votre famille en quittant l'Algérie, et c'est sur le bateau de l'exil que vous avez composé la chanson qui deviendra, vous l'avez dit, l'hymne de toute une génération d'exilés.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie. Se traîne sans raison.
Ce n'est pas en France que vous avez fait vos premières gammes, mais justement sur votre terre natale, auprès d'un père violoniste. Vos origines berbères ont complété votre éducation musicale en donnant à vos compositions ces rythmes arabo-andalous qui ont fait votre originalité et votre succès.
Ça, c'est pas mon papa qui chante, c'est mon beau-père, celui qui est plus tard mon beau-père.
Tonton Raymond.
Et tonton Raymond. Et mon père se l'accompagnait au violon. J'ai eu la chance à l'âge de 15 ans de jouer à leur côté.
Toute votre vie a toujours été en diapason avec les notes d'une partition, un tempo que vous conjuguerez toujours en famille, en jouant avec Cheikh Raymond, le tonton Raymond, chef d'orchestre, ou votre papa officier, vous l'avez dit. Un tempo que vous conjuguerez aussi en duo, en épousant sa fille. L'unique et délicate Suzy, votre amour d'enfance, devenu l'amour de votre vie.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. De ma
L'amour est un moteur pour vous, tout comme l'engagement que vous avez chevillé au corps. L'exil vous a enclin à l'empathie et à la main tendue. Vous n'avez eu de cesse de combattre toute forme de violence religieuse, politique, économique. Un combat honoré par l'ONU qui vous remettra le titre de chanteur de la paix.
C'est gentil tout ça.
C'est sincère.
Brother, brother, brother. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way.
Plus de 50 ans que l'on vous suit, vous, l'enfant du soleil, loin des caricatures qui vous réduiraient uniquement à de la musique de variété, votre répertoire se veut tout en nuances. Derrière ce sourire se cachent les ombres du passé. Pour preuve, votre longévité et les 50 millions d'albums écoulés. Finalement, cher Enrico Macias, la musique, en soulignant vos souvenirs et en s'invitant dans votre intimité et dans la nôtre, ne vous a-t-elle pas sauvé la vie ?
Vous savez, dans la vie d'un être humain, il y a des bons moments, des très mauvais moments. Et on essaye de les surmonter parce qu'on a quand même un instinct de survie qui est ancré dans chaque être humain. Moi, ma philosophie, c'est l'optimisme et le positivisme. Et j'ai eu la chance de surmonter de terribles épreuves grâce à la musique. La musique, pour moi, ça a été un médicament. Déjà, depuis tout jeune, quand j'entendais mon père jouer, et que j'étais un petit bébé, vous savez qu'un bébé, ça pleure tout le temps. Moi, j'arrêtais de pleurer, j'entendais mon père, ça me calmait, ça m'apaisait. Et puis, je me suis aperçu avec le fil du temps que la musique, c'est une thérapie. D'ailleurs, dans l'orchestre de tonton Raymond et de mon père, on faisait souvent des apparitions chez des malades qui avait des maladies nerveuses, psychologiques, et tout ça. Et grâce à la musique et au rythme, on choisissait bien les morceaux pour ça. C'était un médicament. Moi, j'ai vu des gens qui étaient presque paralysés dans leur lit se lever et danser grâce à la musique.
Alors, Enrico Macias, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que ni vous, ni le public ici présent ne connaissez l'identité de nos visiteurs de l'après-midi. Ladies and gentlemen, are you ready? Plus fort! À tout de suite!
14h16h, Campus. Julia Martin sur Europe 1. Europe 1, Campus. Julia Martin.
Ce dimanche, Enrico Macias est mon invité. Il est l'heure, cher Enrico, de recevoir votre premier proche. Voici un indice pour vous aider. Écoutez.
Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer.
Ben là, ça, c'est ma première collaboration avec mon fils Jean-Claude.
En 1981, ouvre-moi la porte.
Et qui est devenu après mon mentor dans la musique, puisque c'est lui qui a produit, qui a réalisé Orange Amer. Depuis Orange Amer, il m'a donné un nouveau virage.
Il est venu aux sources de la musique que vous aimez.
Voilà, et en plus, maintenant, il est le moteur de ma carrière.
Qui arrive
musicale.
En studio, donc?
Ben, je sais pas, je...
Ben, c'est votre fils.
Ah, c'est lui?
Mais bien
ah,
sûr
ben, mon Dieu.
C'est Jean-Claude Grenassia qui arrive.
Ah, c'est gentil, oh là là. Ah, ça me fait plaisir. T'embrasses pas ton père.
Il lui envoie un bisou de loin.
Il est trop pudique,
il
mon
est
fils,
très
il est pudique.
Installez-vous, Jean-Claude Grenassia, bienvenue. Ah. Vous êtes un des grands noms, il faut le dire, de l'industrie de la musique où vous exercez comme producteur, compositeur, musicien, directeur artistique. Vous êtes le fils d'Enrico. Et ce qui est amusant, et ce que vous m'avez expliqué en préparant l'émission, c'est que vous n'aviez pas forcément au départ un avenir tout tracé dans le monde de la musique. Vous destiniez même plutôt à une carrière académique.
D'avocat, oui. D'avocat ou une carrière universitaire.
Bon, je dois dire que c'est de ma faute. Parce que quand il était tout petit, il parlait même pas encore. Il avait une tonne de disques, comme ça, et je sais pas comment il faisait. Il savait ni lire, ni écrire, ni parler. Je lui disais, mets-moi un disque, par exemple, de Marie Laforêt. Mm-hmm. Il faisait comme ça. Il prenait le disque.
J'étais DJ, en fait, déjà.
Tu étais déjà un DJ. Non, mais c'est vrai, ce que je vous raconte, c'est la vérité.
Mais ce qu'on comprend dans ce que dit votre papa, Enrico Macias, c'est que la musique, elle vous a rattrapé à un moment donné, parce qu'en réalité, elle a toujours fait partie de votre environnement et de votre famille. Vous avez grandi avec.
J'ai grandi dans un vrai environnement musical, sans qu'il y ait de transmission académique par ma famille. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a fait baigner dans une ambiance musicale, et qui m'a laissé la possibilité d'apprendre ou d'étudier la musique ailleurs.
Oui.
Donc c'est ça qui est super.
Faire donc votre chemin, mais
exactement.
Aussi, vous avez donc associé la musique à quelque chose de ludique. Vous voyez votre père prendre plaisir à jouer, ce qui vous a incité finalement inconsciemment, vous aussi, à aller vers ça.
Exactement. La musique, c'est un jeu. Et j'ai découvert ça avec mon père lorsqu'il... composer de la musique, c'était pas « Ah tiens, je me mets à un bureau et je fais de la musique pour faire de la musique parce que c'est mon travail ». Non, c'était après un repas, on prend une guitare et puis on commence à jouer et puis les idées musicales naissent et les chansons. J'ai vu des chansons naître comme ça.
Et ce qui est extraordinaire, Jean-Claude Grenassia aussi, c'est que vous aviez des réveils petits assez originaux. Moi, je trouve ça même génial de se réveiller avec un orchestre qui joue dans le salon. Il y a Johnny qui passe, il y a Mike Brand qui vient prendre le café.
Ah ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les répétitions musicales pour les Olympias, par exemple, à la maison. Donc on se réveille le matin, puis on voit des instruments. Bah, c'était mieux qu'un magasin de jouets.
Une réaction,
oui, mais il faut pas oublier quand même que j'ai deux choses à dire. La première, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure c'est de ma faute, c'est parce que comme je le voyais évoluer dans la musique, quand il avait 14 ans, il était étudiant et tout ça, il voulait faire que de la musique. Je sentais qu'il allait réussir dans la musique, mais je lui ai dit, écoute, mon fils... Tu veux faire de la musique, mais apporte-moi un diplôme. Apporte-moi un diplôme, n'importe lequel. Avocat,
c'est ça,
médecin.
Les pères séfarades.
Alors ça, séfarades et les pères tout court. Hein,
voilà.
Il m'a apporté ce diplôme. Je lui ai dit, maintenant, tu es libre, tu fais ce que tu veux.
Tu fais ce que tu veux.
Voilà, ce que tu veux. La deuxième chose importante que je voulais vous dire, parce qu'il a parlé de... il n'y a pas eu de transmission académique, mais il y a eu une transmission héréditaire. Parce que, en dehors de moi, que son père, vous connaissez, je ne vais pas parler de moi, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les deux grands-pères étaient des grands musiciens. Le grand-père maternel, c'était tonton Raymond, et le grand-père paternel, c'était papa Sylvain. Mmh. Alors, avec tout ça, est né mon fils Jean-Claude. Quoi.
Et je rebondis justement sur ce que vient de dire Enrico Macias. On voit tout ce poids très positif, puisque vous avez des figures importantes, même stimulantes dans votre famille. Mais je me pose la question, moi qui n'ai pas de parents célèbres et connus, il faut dire qu'Enrico Macias, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier. Est-ce que parfois, c'est pas écrasant? Est-ce que parfois, de se dire, si j'emprunte le même chemin, ça risque d'être compliqué, parce que forcément, il y aura toujours une comparaison qui va être faite?
C'est pour ça que je n'ai pas été chanteur. Tout simplement. Mais vous savez, c'est tout dépend de la manière dont vous êtes élevé. Et je pense que mes parents nous ont élevés normalement, sans mettre la célébrité comme point d'ancrage de notre relation. Donc, ça n'a pas été difficile à porter, au contraire.
Mais vous avez fait votre chemin. Mais... Et puis, tardivement, vous avez collaboré ensemble sur cet album majeur dans la carrière d'Enrico Orange-Amer, qui, je le disais, un retour aux sources, dans le sens où vraiment, c'est un retour aux origines.
Exactement.
Pour plein de gens qui n'auraient pas compris qu'Enrico, c'est un artiste multiple, un guitariste émérite, et pas seulement chanteur de variété.
Orange-Amer, j'avais déjà presque 35 ans quand on a commencé à travailler ensemble. Et voilà, il fallait aussi que... Moi, je puise des choses un peu en dehors de cet environnement-là pour que je puisse après revenir à ces sources. Donc finalement, ce que je voulais faire dans cet album, c'était montrer l'authenticité d'Enrico Macias. Et bon, je pense qu'on y a pas trop mal réussi ça.
On l'a réussi.
Ouais. Mmh. Enrico, on sent que la famille, c'est le cœur de vos préoccupations, c'est votre socle. Quelles valeurs vous avez souhaité transmettre à vos enfants?
Le respect. La tolérance,
l'humour.
L'humour, voilà, c'est la première chose. J'aurais dû commencer par l'humour. Mais aussi tout ce que j'ai combattu dans ma vie, mes enfants, je leur ai transmis ces valeurs, mais ils les ont. C'est ancré en eux. On ne peut pas forcer les gens à penser comme nous, même si c'est ses propres enfants. Mais. Ils ont ça en eux.
Ils ont ça en eux. Et vous m'avez confié en préparant l'émission, Jean-Claude, que votre père vous a aussi sensibilisé à l'éthique humaine. Oui. Et vous a appris à vous comporter en mensch. Oui. Qu'est-ce que revêt ce terme-là?
D'essayer d'avoir une conduite dans la vie qui fait qu'on regarde l'autre. Qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas dans un monde où il n'y a que le jeu. Il y a le jeu et le tu. Voilà,
et
c'est
le
ça.
Nous.
Et donc le nous.
Enrico Macias nous accompagne jusqu'à 16h. Il parle bien à votre fils. On écoute The Weeknd, I Feel It Coming. À tout de suite. Un des tubes du moment, The Weeknd sur Europe 1, I Feel It Coming, featuring les Daft Punk. On marque une toute petite pause et on se retrouve avec mon invité, Enrico Macias.
Europe 1. Europe 1. Campus. Julia Martin.
Le campus d'Enrico Macias, qui est mon invité ce dimanche, son fils Jean-Claude Grenassiette également toujours avec nous, et quelqu'un d'autre s'apprête à faire son entrée. Voici un indice sonore pour deviner de qui il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau, Enrico?
Incontournable du répertoire. Oui, c'est un morceau classique de la musique arabo-andalouse qui s'appelle Majrour, ça veut dire blessé. Mon cœur est blessé. J'ai eu la chance de connaître Kamel Labassi qui m'a initié à cette musique. Avant lui, il y a eu Taoufik Bastandji, c'est vrai, je ne peux pas l'oublier. Mais Kamel Labassi, non seulement est multiculturel, c'est-à-dire que il est capable de m'accompagner dans les chansons françaises, occidentales, et aussi, surtout, dans la musique arabo-andalouse. C'est mon chef d'orchestre de la musique arabo-andalouse, et c'est un grand maître de cette musique. Je l'aime, Kamel, parce qu'il est très pudique, il est très timide. Je l'ai attrapé un jour, je lui ai dit, écoute, il faut que tu dégages de tes tripes tout ce que tu as. Il jouait du violon parce que mon père était un très très grand violoniste. D'ailleurs, il a été l'élève de mon père. Et quand il jouait du violon, j'avais envie qu'il ait une autre dimension au violon. Et je lui ai expliqué comment je voulais. Et il l'a fait. Et il est devenu un grand maître de cette musique.
Je propose qu'on l'accueille tout de suite. C'est Kamel Labassie.
Ah, c'est lui.
Évidemment. On ne pouvait pas faire cette émission.
Ah, ça alors.
Sans sa présence.
Je pensais que tu n'étais pas là. Quelle surprise.
Bienvenue, Kamel Labassie. Merci d'avoir gardé le secret et merci de votre présence, car vous êtes quelqu'un de pudique et de réservé. C'est une grande confiance que vous nous accordez. Vous êtes effectivement musicien, guitariste, violoniste, flûtiste. Vous accompagnez Enrico Macias depuis 20 ans et il l'a dit, d'abord vous avez été le musicien de son père, je crois.
Oui, j'ai commencé à être flûtiste de son papa, papa Sylvain. C'était pour la première fois, c'était la veille du 14 juillet en 1981, chez Madame Berthe, au Grillon d'Or, je crois.
Oui. Ouais.
Et à partir de là, j'ai participé à plusieurs fêtes, à plusieurs mariages, à plusieurs bar mitzvahs avec le papa d'Enrico Macias.
Et ce qu'il faut dire, c'est que vous aussi, vous arriviez d'Algérie, où vous êtes né, où vous avez passé votre jeunesse. Et là-bas, dans toutes les chambres universitaires, il y avait une cassette d'Enrico. Vous l'avez dit à Enrico et vous a dit « Merci mon fils ». Là-bas, c'est une immense star, Enrico Macias.
Parce que la première fois que je l'ai vu à l'Olympia, c'était fin mars 1985.
Il connaît les dates et tout, hein.
Et la première fois que je l'ai vu, Suzy, elle était à côté de lui. Et lui, je me souviens très bien, il avait des boutons manchettes, je sais pas, c'est un rouge, rose. Et il avait une chemise rose, une cravate avec une pochette. Il m'a impressionné. Quand j'ai parlé à papa, il me dit, viens, je vais te présenter mon fils. Bien sûr, je lui ai serré uniquement la main. Et j'ai dit, Enrico, vous savez, moi, j'étais étudiant en Algérie. Je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Et chaque chambre, puisque j'étais interne à l'université, il n'y a pas une chambre d'étudiants, il n'y avait pas une cassette d'Enrico Macias. Et donc tout le monde chantait Enrico Macias.
Et voilà. Puis le chemin faisant, à partir de 1997, il vous a proposé de travailler avec lui. Et depuis, vous ne vous êtes plus quitté. Plus un concert, plus un album sans vous, Kamel. Ça a été une véritable rencontre, comme un coup de cœur amical avec Enrico.
Au départ, c'était un coup de cœur, bien sûr, musical. Et par la suite, on est devenus amis. Et je crois que le lien réellement, c'est comme une maman, c'était Suzy qui nous a vraiment... Puisque quand j'allais à la maison, Suzy, elle me considérait comme son fils. Donc je crois que le rapprochement de ce lien, c'est grâce à Suzy.
Vous dites que c'était une femme qui marchait à l'émotion, Suzy.
Elle se trompait pas en tout cas. Quand il voyait quelqu'un avec Enrico Macias, elle me disait, Kamel, ce mec-là, il ne me plaît pas. Finalement, au bout de 15-20 jours, ça ne marche pas. Et donc, c'est vrai, non ?
Oui, c'est vrai, parce que de toute façon, elle disait ça de tout le monde.
Ah ouais.
Alors, donc, elle risquait pas de se tromper.
Elle faisait attention à vous et justement aux
mais
gens,
sûr,
à l'entourage. Et d'une certaine façon, elle vous préservait. Vous êtes devenus de vrais, vrais amis. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes le seul musicien qu'Enrico voit 3 fois par semaine, même lorsqu'il n'y a pas de concert. Vous êtes dans l'intime, vous êtes dans la confiance, vous êtes des confidents, vous partagez tout. M'avez-vous expliqué Kamel Labassie ?
Et l'humour aussi, parce qu'il me fait rire.
Non, parce que ce qu'il m'avait déjà, grâce à Enrico, celui qui m'avait donné cette confiance en moi, quand j'ai commencé au début jouer la musique avec lui, bien sûr, je dois rendre hommage, j'ai commencé normalement avec l'orchestre Fondouk, avec Taufik Bestanji, quand on a fait le disque en 99 au printemps de Bourges, la musique arabo-andalouse, et par la suite, j'ai remplacé Taufik. Et à partir du moment quand j'ai remplacé Taufik, Enrico a découvert en moi, j'aimais rire, quoi. Et d'après Enrico, il me dit, t'as ton physique qui fait rire. Dès que je te vois arriver, tu me fais rire, déjà.
Vous l'avez bien pris.
Oui, bien sûr. Au contraire, ça, c'est flatteur. Il vaut mieux qu'il me dise ça qu'autre chose. Et à partir de là...
Moi, je dis que Kamel, qui a fait une grande carrière déjà dans la musique, moi, je dis qu'il a raté quand même la vocation d'un acteur comique. Parce que il a ce sens comique qui me plaît en lui. Et en plus, il est un peu imitateur aussi.
Ah oui, de qui? Bah, si vous me dites ça,
imitateur,
vous me lancez la perche, j'ai envie de dire
non,
de qui?
Pas du tout, je suis imitateur physique, mais non pas par imitateur vocal.
Ouais. Vous en êtes bien sorti. Il est malin. Vous êtes devenu...
Comment elle rigolait, Denise Fabre? Comment tu m'as fait, Denise Fabre, tienne, ancienne speakerine de TF1?
Ben, je crois qu'elle a été arrêtée par TF1 parce qu'elle avait la pauvre un tic qu'elle ne pouvait pas se retenir. Quand il dit, mesdames et messieurs, bonsoir.
truc, hein, on est filmé. Alors cette séquence, on va l'isoler et on va la garder.
Non, mais il y a 3 ans, quand on est parti à Nice, je lui ai fait ça, elle était morte de rire, parce qu'elle assistait à notre concert.
Mais oui, elle est originaire de Nice, évidemment. Oui. Un petit mot, puisqu'on évoquait ça tout à l'heure avec Jean-Claude, qui disait, mon père, c'est un vrai papa séfarade, mais il est également avec vous, hein, parce que je crois que quand il n'a pas de nouvelles, par exemple, en loge avant un concert, il s'inquiète.
Dès qu'il ne me voit plus, il est où, Kamel ? Il est où, Kamel ? Donc, il faut qu'il me voie tout le temps dans son champ de vision.
Et ce qu'il y a aussi, évidemment, entre vous, c'est l'Algérie, cette déchirure. Pour vous, Enrico, lorsqu'en 2001, vous avez failli revenir sur vos terres natales, vos concerts ont été annulés. Il y a eu un sursaut d'espoir. Malheureusement, c'est un retour impossible. Ça l'a été à ce moment-là. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui avoir la possibilité de revenir là où vous êtes né ?
Après 3 ou 4 tentatives... pas de ma part, mais de la part des autorités algériennes, pour y retourner, qui ont été négatives. C'est difficile d'y croire, mais il faut jamais fermer la porte de l'avenir. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver de positif pour que je retourne. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que mes enfants et mes petits-enfants, après moi, retournent dans la ville où je suis né.
On va poser la question à votre fils qui est avec nous. Vous avez fait ce voyage initiatique, vous êtes retourné en Algérie ou c'est quelque chose qui...
Non,
vous...
c'est-à-dire que tant que mon père n'ira pas en Algérie, pour l'instant, moi, je ne peux pas y aller. Peut-être que j'irai un jour vraiment de manière très privée ou quelque chose comme ça. Et on a beaucoup d'amis en Algérie. Donc, non, tant qu'il n'aura... Je pense que le deuil... que toute cette génération doit faire, c'est à eux d'abord de le faire avant nous. Et d'y aller nous avant, je pense que ça serait indécent.
Enrico Macias et sa galaxie nous accompagnent jusqu'à 16h. Renaud sur Europe 1 avec Héloïse.
Campus revient dans un instant sur Europe 1. Campus sur Europe 1.
Julien Martin. Enrico Macias est mon invité ce dimanche et on poursuit son campus des copains avec une personne qui nous attend en ligne. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
Ah. j'ai eu Jean finalement.
Ah, très bien,
non, parce que je lui ai demandé de me contacter un ami à moi.
D'accord.
Et alors, je l'ai eu ce matin, avant de venir. J'étais dans la voiture venir ici à l'émission. Et là, je suis vraiment surpris de l'entendre. Ça me fait plaisir.
Il a gardé le secret, Gérard.
Je le savais déjà depuis pas mal de jours. Même quand j'étais vu mardi, je le savais. Quand tu m'as dit tu m'oublies, je t'ai dit non, tu verras pourquoi je ne t'oublie pas.
Il réservait la surprise pour Campus. Revenez Gérard, s'il vous plaît, sur votre rencontre avec Enrico. Je crois que vous êtes d'abord beaucoup croisés dans les gradins du Parc des Princes.
Oui, on savait évidemment qui on était l'un et l'autre. Moi, beaucoup plus que lui, parce que c'est un chanteur tellement populaire, une star de la chanson française et internationale d'ailleurs. Et voilà, moi j'avais tourné quelques films, mais je savais qu'il me connaissait. Et à chaque fois que nous nous croisions, il y avait une espèce de chose comme ça, de contact très amical, assez chaleureux, qui nous faisait dire, bon, ce métier est curieux, on se voit pas assez, voyons-nous. Et vous savez comment est ce métier, justement, voilà, les choses passent. Jusqu'au jour où nous sommes vus dans le même film, sur un gros paquebot, isolé, nous on était en pleine mer des Caraïbes, donc on était, voilà.
Ouais, c'était bienvenue à bord, en 2011.
Bienvenue à bord, absolument, on a eu le temps de faire connaissance. Mais tout de même, je me souviens, au Parc des Princes, un jour, à la mi-temps d'un match, on se connaissait peu, et à chaque fois, il me disait à quel point il m'aimait, il m'appréciait, etc. Je disais, moi, la même chose, c'était pas par politesse, c'était vraiment ressenti. Et un jour... Il m'a pris, juste avant que le match ne commence, il m'a pris à part pour me dire, je vais te chanter mon nouveau texte, qui s'appelle La Rumeur. Et j'avais envie de l'écouter, en même temps, le match allait reprendre. Donc, il a continué, il a fait comme s'il n'y avait pas de match du tout. Et il m'a chanté La Rumeur, et ça n'en finissait pas. Il y avait un couplet dans cette chanson, et le match a commencé, quand il était toujours avec La Rumeur est sortie de la bon. Je l'ai écouté poliment, et voilà, mais j'ai trouvé...
Merci voilà. Gérard d'être dans mon émission, là, vraiment.
Bah, dis-moi.
Hein, oui. Ne serait-ce que par téléphone, dis-moi. Ce que je voudrais te dire, que je t'ai jamais dit, C'est que la première fois que je t'ai vu dans un film, c'était avec Roger Hanin dans
Le Grand Pardon.
Oui, c'était la première fois que je te découvrais.
Oui.
Et je t'ai tout de suite, sans te connaître, j'ai eu de l'amitié pour toi, sans te connaître. Parce que tu dégages quelque chose de protecteur. Tu es protecteur, tu es un ange gardien. Tu es un ange gardien.
Tu me le dis souvent.
Oui, mais c'est vrai, mais je t'aime à cause de ça, et voilà. Et puis moi, mon amitié, c'est éternelle.
Mmh. Et, je le sais, voilà. Comme la mienne, voilà. Je le sais.
D'ailleurs, voilà. Gérard Darmon, en préparant l'émission, nous a dit que vous étiez comme des frères, et qu'Enrico, vous le considérez comme votre petit frère.
Oui, parce que c'est lui qui me protège.
Voilà, c'est ce que je vous ai dit, je crois. C'est paradoxal, hein, mais...
N'oublie pas que je suis plus âgé que toi, quand même.
Je voulais revenir aussi sur votre amitié, sur le fait qu'elle se retrouve également sur une certaine vision de la famille, de la tradition, qu'elle s'ancre là-dedans, dans ce socle.
Oui, c'est exact. Et aussi ça, on est corréligionnaires, comme on dit. Donc, il y a des choses comme ça qui nous réunissent et qui sont... ça, c'est du domaine de l'intime. Vous savez, l'amitié, je pense l'avoir dit quand vous avez préparé cette émission, pour moi, l'amitié, c'est quoi? C'est pouvoir faire des confidences à quelqu'un et pouvoir être familier. Quand on fait des vraies confidences, c'est-à-dire qu'on ouvre son cœur et qu'on ouvre son esprit, son âme, ce que vous voulez, à quelqu'un, en sachant que celui-ci ne va pas s'en moquer ou le répéter comme un idiot à tout le monde en s'en moquant. Et puis la familiarité, c'est aussi... la familiarité, c'est pas uniquement se taper sur l'épaule ou sur le ventre et se tutoyer. Il y a quelque chose de... Dans familiarité, il y a famille. Donc, je pense avoir ces deux, vivre ces deux choses-là avec Gaston, avec Enrico. Donc, j'ai du mal à dire, je l'appelle jamais Enrico, moi, je l'appelle toujours Gaston. Donc, voilà, c'est la confidence et la familiarité, absolument, voilà. Et ça, je le connais sous cet angle-là. Moi, je le vois vivre, Enrico. Je sais comment il est avec les gens. Il n'a pas la naïveté que certains veulent bien lui prêter, parce qu'il sait très bien faire, comme disait mon père, il sait très bien faire l'âne pour avoir du son. Mais,
surtout à mon sonorisateur.
Oui, bien sûr. Non, il est extrêmement, il voit tout, il sait très bien ce qui se passe. Voilà, il laisse les autres dire ce qu'ils disent de lui, ça n'importe pas. Vous savez, cette espèce de caricature qui consiste à dire qu'on est tous des frères et
Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement. Cette caricature qui n'est pas véritablement
Enrico Macias. Oui, mais il a l'intelligence de ne pas y répliquer et d'avancer, de faire comme s'il n'avait pas entendu. Je trouve ça formidable. Et je voulais aussi en profiter pour embrasser chaleureusement son fils, Jean-Claude, qui est là, que j'aime beaucoup et que j'admire énormément parce que je considère que c'est un grand musicien et je considère aussi qu'il a rempli pleinement son rôle de fils. Enfin, c'est tant qu'il y a un rôle à jouer, mais en tout cas, il lui a rendu l'amour qu'il a reçu en lui faisant monter sa carrière artistique, son parcours artistique d'un cran. C'est-à-dire qu'au lieu de rester l'Enrico Macias traditionnel qui continuait à chanter justement toutes ces laï-laï-laï dont les gens se gossaient, il a fait revenir aux sources, il a donné des arrangements, une espèce de modernité, et moi je suis absolument stupéfait et admiratif quand je vois Gaston sur scène, parce que une salle, un Olympia, enfin, je l'ai accompagné à Montréal, je l'ai accompagné un peu partout, un Olympia ou à Montréal ou dans le monde entier, avec un concert de Macias, c'est quelque chose, pour celui qui ne connaît pas et qui aurait une petite tendance à se moquer en disant voilà, c'est exceptionnel, c'est absolument de chaleur, et ça franchement les gens qui sont dans le studio et qui le savent peuvent en témoigner, c'est absolument extraordinaire. J'ai rarement vu de concert, à part des concerts de rockstar où ça hurle beaucoup, mais les gens sont des dithyrambiques, qui a une chaleur, un amour, une tendresse.
Vous avez raison, Gérard Darmon, puisque le public en studio valide vos propos et on est absolument d'accord avec vous. Les concerts d'Enrico sont des événements. Vous les voyez, hein ? On est d'accord.
Merci, Gérard.
Vous l'avez ému, Jean-Claude Grenassière, qui souhaite vous répondre, Gérard.
Voilà,
moi aussi, Gérard, je t'embrasse bien chaleureusement. Et aussi, moi, j'aime beaucoup la manière dont Gérard est complice avec mon père. Et avec moi aussi. Il y a quelque chose comme ça. Quand il y a un Olympia et qu'il y a Gérard, pour moi, c'est un tout. Voilà.
C'est joli. C'est beau. C'est très joli.
Merci Gérard, Gérard. Merci. Merci. Merci mon 1 2 3. Tu as compris hein.
1 2 3 oui.
J'embrasse aussi cet immense musicien violoniste qui est à côté, qui est là.
Kamel Labassi.
Merci, Gérard.
Kamel, qui a la même montre que moi. Et il comprendra, il saura ce que ça veut dire. Et bon, bref.
Et moi, je vous embrasse, si vous êtes d'accord.
Bien sûr. Alors, 06.
Alors, Maryse dans Régie va prendre votre numéro de téléphone. Et sachez que vous êtes le bienvenu dans Campus, hein, Gérard Darmon.
Bah, écoutez, il s'agit de m'inviter. C'est pas plus difficile.
Mais l'invitation est lancée. Je vous embrasse bien fort.
Merci, Gérard. Merci.
Salut, Gaston. Bye bye.
Merci, mon frère.
Europe 1, Campus,
Julien Martin.
Campus, oui, mais le campus d'Enrico Macias. Alors, Kamel Labassi et Jean-Claude Grimacias, son fils, sont toujours à ses côtés et une autre personne attend dans les coulisses. Voici un indice pour découvrir de qui il s'agit.
J'apprendrai pour lui plaire l'art d'être grand-père, pour lui l'enfant de mon enfant. Mon petit pharaon, mon petit Simon, je veillerai sur son présent.
L'enfant de mon enfant, vous avez forcément deviné, Enrico.
Ben oui, bien sûr. C'est mon petit-fils chéri. Je les aime tous, hein, tous mes petits-enfants. Mais lui, c'est le premier qui est né. Et c'est mon petit pharaon. Voilà.
Et on accueille Simon. Le petit-fils d'Enrico. Bonjour et bienvenue, Simon.
Bonjour.
Alors déjà, j'aimerais que vous nous racontiez quel grand-père il était avec vous lorsque vous étiez petit. Un grand-père gâteau, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe.
Un grand-père très gâteau, ouais. Un grand-père très gâteau, il était très heureux, je crois, quand je suis né, quand il est devenu grand-père. Et il prenait soin de nous, il était tout le temps là, tout le temps autour de nous. Il venait tous les jours, je crois, me voir dans mon berceau. Et voilà, j'étais aussi bercé par lui, avec mes parents, avec mon grand-père, avec ma grand-mère, qui était vraiment très... L'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, c'est un événement.
Un événement.
Ah, oui.
Une joie pour toute la famille. Un grand-père aussi que vous regardez encore aujourd'hui avec les yeux de l'admiration, je le vois. Hein. J'ai l'impression que c'est un modèle pour vous parce qu'il vous a transmis, on l'a évoqué tout à l'heure, évidemment c'est l'amour de la musique, j'ai l'impression qu'il y a un atavisme dans cette famille, mais aussi des valeurs essentielles.
Bien sûr, des valeurs familiales, des valeurs de solidarité, des valeurs... voilà, on est ensemble, on se voit une fois par semaine. Voilà, c'est quelque chose de très important dans la famille.
Et je crois que quand vous étiez petit, vous disiez quelque chose, il n'aime pas la délation. Hein.
Non, il déteste la délation. Quand il y avait quelqu'un...
Quand ils étaient petits, Elliot et Simon, ils étaient la plupart du temps avec moi, et puis les autres aussi, les enfants de Jean-Claude, que j'adore aussi. Et je ne supportais pas, quand ils se disputaient entre eux, qu'ils viennent me dire... Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Alors, il t'a fait ceci, moi je vais le refaire à leur place. J'aime pas les rapporteurs.
Les cafeteurs.
Les cafeteurs, il me disait je déteste les cafeteurs.
Voilà. Et à l'école, quand j'étais instituteur, c'était pareil. Hein. J'étais très, très, très gentil avec les élèves. Mais la seule chose où j'étais vraiment intransigeant, c'était la délation.
Vous avez raison, c'est vrai que les faillots, c'est jamais très sympa en fait.
Ah non, non.
Franchement,
pas,
c'est
non.
Pas moi qui ai fait, c'est lui qui a fait. Ce qui est joli aussi aujourd'hui, Simon, c'est la relation que vous avez avec votre grand-père qui est une relation fusionnelle. Elle est assez unique puisque vous êtes complice et vous le qualifiez même d'ami, votre grand-père.
C'est mon copain, ouais. C'est très
c'est vrai. C'est moi, j'allais le dire, il m'a devancé. Moi, c'est maintenant, je le vois plus comme un petit-fils, je le vois comme un copain. Je le sors avec moi, on va manger dans les restaurants. Il me trouve des restaurants incroyables. Et je sais pas comment il fait. Alors, je le suis. Il me conseille aussi, pas mal. Maintenant, je l'écoute de plus en plus. C'est un peu comme mon fils, Jean-Claude. Parfois, j'oublie que je suis son grand-père. Et il me dit, alors, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Oh là, ça va. Tu as raison.
Et ce qui est fou, Simon, c'est que tous vos copains l'adorent aussi.
Aussi, oui. On est souvent avec mes amis qui viennent avec nous en émission, en tournée. Et ils sont là autour de nous et c'est vrai qu'il y a de la jeunesse autour d'Enrico et Enrico boosté, je pense. Il a toujours été boosté, je veux dire, mais le fait d'avoir de la jeunesse avec lui, c'est une bonne chose aussi,
ouais.
Je pense.
Ouais. Les bouddhistes disent la chose suivante, si tu veux rester jeune, ne fréquente que des jeunes.
Voilà.
Mmh. Voilà.
Et c'est, il a bien raison, Enrico, parce que du coup, vous l'initiez aussi à tout ce qui est réseaux sociaux.
Bien sûr.
Je crois qu'il adore Instagram, votre grand-père.
Il adore Instagram, il adore Facebook.
On... Ah oui, j'aime surtout les Facebook. Non,
bah
c'était
oui.
pour faire un jeu de mots.
Il fallait la placer, mais il faut tenter, moi j'aime bien.
Il faut tenter. On l'initie beaucoup aux réseaux sociaux. Il n'y a pas une photo qui passe sur ses réseaux sans qu'il la valide. Il trouve beaucoup de blagues, il trouve beaucoup d'idées. Et voilà, c'est super. On s'amuse vraiment bien. C'est un jeune. En
fait. Alors Simon, il y a un mot que vous avez dit tout à l'heure que je n'ai pas relevé, mais à bon escient, c'est tourner. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous faites tout ensemble. Il y a les restaurants, il y a les vacances qui sont transformées en tournées. Puisque désormais, vous chantez avec votre grand-père. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, ce déclic et cette aventure-là.
Exactement. De base, je devais partir en vacances avec lui et l'accompagner vraiment en tant que petit-fils. Et la veille de notre départ, je lui demande si je peux intégrer l'orchestre en tant que guitariste. Et il me dit, écoute, je veux pas que tu sois noyé, et puis tu connais pas toutes les chansons, tu peux te tromper et tout ça. Donc il me demande de lui chanter une chanson, je lui chante une chanson qu'il aime, et il me dit, tu vas venir faire les 7 dates avec moi, et chanter cette chanson. Donc moi qui devais partir en vacances, je me retrouve dans un stress monumental.
Un trac
monumental, parce que je n'avais jamais chanté devant un public. J'avais 22 ans, je n'avais jamais chanté devant un public, donc voilà, j'étais extrêmement stressé et je crois que ça s'est bien passé. Et puis après, on a fait l'Olympia. Enfin, j'ai eu la chance de. Il m'a offert le fait de faire l'Olympia avec lui. Et voilà, je suis très heureux, il m'a offert un très très beau cadeau.
C'est extraordinaire. Alors, je parle au grand-père qui a vécu de très belles heures dans cette salle mythique de l'Olympia et vous avez marqué beaucoup de gens avec ça, d'avoir à un moment donné votre petit-fils à côté de vous. J'aimerais. Quelles émotions ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Déjà, le fait d'être à côté de lui, déjà, j'ai beaucoup d'émotions. Mais alors, sur scène, encore plus. Et c'est la même chose qu'avec mon fils Jean-Claude. C'est la même émotion. C'est-à-dire, je ne veux pas parler de transmission, mais c'est vraiment magnifique de voir que son petit-fils chante avec moi devant des milliers de gens. Et alors là, en plus de ça, il assure. Il chante bien. Il joue bien de la guitare. Et les gens... Peut-être pour me faire plaisir, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, quand ils se mettent debout et qu'ils crient tous « Simon, Simon, Simon », c'est qu'il a accroché le public.
Je me retourne vers Jean-Claude. Simon sur scène aussi, c'est sacrée aventure, là.
Simon a le truc, comme on dit. Il a le charisme, il a évidemment du talent, mais il arrive à se projeter en tant qu'artiste de manière naturelle, sans essayer d'être autre que ce qu'il est. Et ça, c'est une grande chance pour lui.
Mmh. Et alors, Simon, les compositions, j'imagine, ça avance.
Les compositions, oui, ça avance beaucoup. Bah, c'est vrai qu'avant les concerts, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'est dur d'assumer, quand on a un grand-père connu, de se dire, voilà, je veux faire de la scène, je veux me mettre en avant et tout ça. Parce que c'est vrai que mon grand-père prend beaucoup de place artistiquement et c'est une très bonne chose. Et donc, je ne savais pas trop. Et puis, c'est vrai qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Et ça m'a vraiment donné envie de me donner à fond. Et donc, j'écris des chansons et je compose des chansons maintenant pour moi. Et j'espère, j'espère en faire mon métier, j'espère.
Bah, nous, on vous le souhaite.
Justement, quand je l'ai vu passionné avec la volonté de jouer avec moi sur scène, en duo, je lui ai dit, il faut pas que ça s'arrête comme ça. Moi, je te mets le pied à l'étrier, mais il faut que tu te fabriques. Tu te fais aider peut-être, mais tu te fabriques ton propre matériel. Tes propres chansons. Et tu en es capable. Tu as le potentiel pour ça. Et là, j'étais surpris parce qu'il est presque tous les jours au studio de Jean-Claude et il travaille et il m'a fait écouter une chanson magnifique. J'espère que lorsqu'elle sera complètement terminée, vous l'envoyez et la passez à Europe numéro 1.
Avec grand plaisir.
Parce que je pense que... Comment c'est le titre de cette chanson ?
Tourne autour de toi, mais c'est quand...
Vous avez vu, Simon, comme il est bon, votre grand-père, pour placer le titre, même avant qu'il soit sorti. Ça, j'apprécie.
Le titre n'est pas fini.
Le titre n'est pas fini, mais il est déjà dans ma petite tête. Et je vais en parler à la direction. Un mot avant qu'on laisse passer les informations qui me vient quand je vous regarde tous les deux. Jean-Claude, je suppose, va confirmer ce que je dis. Cette relation que vous vivez, je la trouve magique.
Merci beaucoup.
Merci.
Oh, il est ému. Allez, à tout de suite.
Europe 1, Campus.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner vos dimanches après-midi. Je suis ravie de vous retrouver toute cette saison avec cette émission qui porte haut et fort les valeurs de l'amitié. Je vous rappelle que ce dimanche, c'est Enrico Macias que nous découvrons mieux grâce à sa galaxie amicale. Nous avons parlé en début d'émission de ce nouvel album Méditerranéenne au pluriel réalisé par Julie Zenati sur lequel vous chantez un de vos titres phares, Adieu mon pays. On retrouve également comme interprètes Chimène Badi, Elisa Tovati, Slimane, Sofia et Saïdi. C'est un merveilleux album aux couleurs de cette belle mer de la Méditerranée, un album d'amour, de tolérance, de voyage. Et je le conseille évidemment à tous nos auditeurs. D'ailleurs, quelqu'un du public repartira avec l'album, je ferai un cadeau. Il y a des gens qui le veulent ? Oui ! Mais il n'y en aura qu'un, désolé. Certains proches sont déjà aux côtés d'Enrico Macias, d'autres vont nous rejoindre et à chaque fois c'est une immense surprise qui est organisée. Jusqu'ici tout va bien Enrico ?
Jusqu'ici c'est merveilleux.
Bon, merveilleux. Vos réactions à vous hein, à la maison avec Twitter, le hashtag E1Campus et sur la page Facebook de l'émission. Alors nous sommes toujours en compagnie des proches d'Enrico Macias, il y a son petit-fils Simon, il y a son fils Jean-Claude, il y a Kamel Labassie, on est bien avec vous, on est en famille, on est tranquille et j'aimerais que quelqu'un d'autre arrive. Et de ce fait, écoutons un nouvel indice sonore.
Tu dis je fais, tu dis je vais, j'ai tout prévu, tout vérifié, à l'ombre de ta vanité, rien ne saurait te résister.
Et seul la vie fait ce qu'elle veut, tout est dans le secret des cieux.
Un extrait d'À la grâce de Dieu, un titre qui figure sur votre album Les Clés, sorti en 2016. Et cette chanson a été écrite par cet ami qui arrive.
Ah oui, c'est Frédéric Zetoun.
Absolument. Oh là là. Frédéric Zetoun arrive dans le studio Merlin d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Frédéric, bienvenue.
Je suis ravi d'être là.
Frédéric Zetoun, vous êtes parolier, auteur, compositeur et chroniqueur musical. On peut notamment vous voir sur France 2 dans Télématin et C'est au programme. Mmh. Votre rencontre avec Enrico, elle a eu lieu il y a une trentaine d'années. J'aimerais que vous nous racontiez dans quelles circonstances.
Ici à Europe 1. Je ne sais pas si Enrico se rappelle. Ce jour-là, il y avait une émission, et Enrico était l'invité vedette de l'émission de Amadou Maryse. Mmh. Et puis moi j'avais un texte que je voulais absolument lui montrer. Donc j'étais arrivé en retard, comme souvent, mais je savais qu'il allait sortir, donc je l'attendais devant la porte. Ce texte, c'était « Jérusalem, j'ai froid ». Je lui mets le texte dans la main, il me dit « Vous savez, moi j'ai tout ce qu'il faut, mon album est terminé, mais écoutez, mettez-le dans votre poche, et ça peut toujours servir ». Et je pars. Je pars, donc je continue la route, et puis j'entends quelqu'un qui me dit, je ne sais pas si tu te souviens de ça, et j'entends « Eh oh, oh, oh !» Je me retourne, il me dit « C'est toi qui as vraiment écrit ça ?» Donc je reviens. Et il m'a donné, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, il m'a donné le numéro de son fixe en me disant « Appelle-moi demain, je vais voir si je ne peux pas faire une musique sur ce texte ». Et voilà comment cette chanson, Enrico l'a enregistrée. Il y a à peu près 30 ans ici.
Mais est-ce qu'il faut dire, Frédéric
Oui, Frédéric, c'est la première chanson que tu as écrite pour moi.
Ouais.
Et je me rappelle d'une autre chanson qui n'a pas donné le jour, c'est « Les Rois de cœur ».
Eh ben, il n'est jamais trop tard.
Non, mais c'est vrai, tu m'avais donné un deuxième texte après Jérusalem, j'ai froid.
Oui, c'est vrai que j'en ai
et c'était, c'était une chanson d'avant-garde. Parce que elle est sortie à un moment où tu étais en avance sur l'actualité. Tu étais en avance.
C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis en avance quelque part.
Mais vous êtes un précurseur, ouais. Frédéric Zetoun.
Non, tu étais en avance. Tu étais en avance parce que c'était une chanson pour les Juifs russes.
Effectivement.
Qui était encore un petit peu dans une sorte de goulag là-bas.
Totalement, les refusniques, bien sûr. Hein et ils sont sortis quelques mois après. Voilà. Enrico a été leur a porté chance. Ouais. Et en fait, moi, cette chanson, elle était extrêmement importante. Et j'avais promis à mes parents de faire des études de droit, et je leur avais dit, mais voilà, si à 30 ans, j'ai pas été chanté par un grand artiste, et quel meilleur artiste, Enrico, à la maison, on écoutait que ça. Enfin, c'était vraiment, c'était comme un tonton que je ne connaissais pas. J'avais l'impression qu'il faisait partie de ma famille, tellement je connaissais ses chansons. Et effectivement, donc à 27 ans, alors ça n'a pas été un énorme succès, mais Enrico a chanté cette chanson, et ça m'a donné le permis de continuer.
Et cette chanson, Enrico, il l'a chantée à l'Olympia, salle mythique, où vous avez amené, je crois, votre papa avec vous.
Effectivement.
Il faut expliquer aux auditeurs, c'est que vous considérez d'ailleurs Enrico Macias comme un membre de votre famille. Vous m'avez dit, j'ai grandi biberonné par ses chansons.
Mais tout à fait. Comme beaucoup de familles, mes parents venaient de Tunisie et non pas d'Algérie. Et c'est vrai qu'Enrico, on avait l'impression que c'était un membre de la famille. Comme, vous savez, c'est tonton que l'on ne voit jamais, je ne l'avais jamais rencontré. Mais je connaissais, effectivement, on écoutait ça, c'était vraiment le rythme sur les vieux pick-up de l'époque. Je peux faire ancestral comme ça, mais il y avait les vieux pick-up, et ensuite les manches-disques. Et je crois que j'avais à peu près tous les 45 tours de Enrico. Et il n'y a rien de plus beau quand on écrit des chansons que de rencontrer quelqu'un qui vous a donné envie d'en faire. Et c'est surtout quand au moment de la rencontre, on s'aperçoit que l'idée qu'on avait du bonhomme est totalement à la hauteur et même mieux que ce qu'on avait imaginé.
Là, on parle de véritable rencontre de cœur à cœur. Et cette chanson, donc, il l'a chantée à l'Olympia. Je crois qu'Enrico a cité le nom des auteurs.
Oui.
Et vous étiez dans la salle ?
Et mon papa était là aussi, il était encore de ce monde. Et à la fin, ça, Enrico ne s'en rappelle pas non plus, je crois pas. À la fin, on est allé, c'est là où j'ai fait la connaissance de Jean-Claude, que j'ai rencontré pour la première fois, qui est devenu un ami. Et mon père, qui était un type extrêmement discret, extrêmement timide, qui voulait surtout pas déranger. Et Enrico lui a juste dit, bonjour monsieur, il faut le laisser écrire le petit, c'est bien. Voilà.
Et voilà. Dites-moi, je vous sens particulièrement ému, Frédéric Zetoun, parce que j'ai l'impression que vos histoires familiales respectives, elles se rejoignent et forment d'ailleurs l'histoire de France avec ce terreau qu'est l'exil, l'arrachement à ses terres. Cette sensibilité, elle contribue forcément à avoir une relation particulière avec Enrico encore aujourd'hui.
Bien sûr, parce que c'est Enrico, il incarne quoi ? Il incarne l'espoir, il incarne que tout est toujours à recommencer, que rien n'est jamais perdu. Et il a, par ses couplets, par sa présence et par ce qu'il incarne, il a vraiment incarné une petite flamme d'espoir pour des tas de gens qui, dans l'ombre, l'écoutaient.
Et ce qui vous lie également, c'est sa capacité, Enrico, à affirmer haut et fort ses idées. Et pour vous, surtout, je vous cite, qui êtes né dans un fauteuil, cette affirmation de soi a évidemment une forte résonance.
Ben, dire ce que l'on est et faire de ces différences sa force, je trouve que c'est quand même toujours une grande leçon. C'est vrai que de revendiquer son judaïsme, revendiquer son soutien à Israël dans les années 60, c'était pas évident, c'était pas tendance à l'époque. Je ne dis pas d'ailleurs que ça le soit devenu, mais Enrico n'a jamais fait mystère de ses engagements. Il a toujours dit qui il était, et ça ne pouvait que me toucher.
Cette volonté, finalement, c'était au-delà de vous-même que de devenir un porte-voix. J'ai l'impression que l'injustice, globalement, c'est quelque chose que vous exécrez.
Je ne suis pas un porte-voix. Je suis tout simplement un témoin. Et je crie quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Quand il y a de l'injustice, quand il y a du racisme, de l'antisémitisme, tout ça. Moi, j'estime qu'un être humain, c'est une création de Dieu. Et que quand on insulte un être humain, c'est qu'on m'insulte à moi. Et ça, les gens devraient comprendre ça. Même les plus méchants. Par exemple, quand un kamikaze tue un milliard de gens au nom d'une cause qui est quand même incroyable, au nom de Dieu, au nom de l'amour, ils arrivent à faire ce mal. Là, dernièrement, là, il y a eu encore un attentat sur ce jeune policier là qui est parti pour rien, comme ça, même pas en se battant. Non, je ne peux pas admettre ça. À l'heure actuelle, en 2017, avec les progrès de la technologie, avec les progrès de la science, avec les progrès de la médecine, tout ça, c'est du gâchis. Quand on tue des gens comme ça, on se dit, mais pourquoi le chercheur qui a essayé de sauver une autre personne parce qu'il a une maladie incurable, comme le cancer ou le sida ou des choses comme ça, pourquoi, de notre côté, on tue des gens en pleine santé ? Pourquoi ? Et peut-être en même temps, on tue des gens qui peuvent trouver des solutions aux autres.
Et plus généralement, porter un regard différent sur le handicap, sur l'infirmité, j'ai envie de dire que ça a forcément un écho en vous particulier, Frédéric Zetoun, puisque vous êtes allé jusqu'au bout de cette démarche en arrivant sur scène avec l'histoire enchantée du petit juif à roulette.
Je l'ai vu, son spectacle magnifique.
Extraordinaire. Magnifique, il y a magnifique. Beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup d'humour pour parler d'un sujet, moi je dirais, sérieux, voire grave, parce qu'il y a plein de gens qui malheureusement, aujourd'hui, l'accessibilité, on le voit encore dans cette campagne
c'est
présidentielle.
C'est un grand combat.
C'est un grand combat.
Dont personne ne parle, hein, dont pas grand monde ne parle. Je reprends juste sur une toute petite chose. Pour moi, le mot infirmité n'existe pas. Infirmité, handicapé, c'est des mots réducteurs. Ça veut dire on ne peut pas. Moi, je pense qu'on peut tout. Il faut juste que la ville, au sens latin du terme, que la cité, soit accessible pour tout le monde. Je pense que le rapport à soi-même, c'est un rapport que chacun règle avec soi-même. Il faudrait juste que l'accès au travail, l'accès à la circulation, qui amènerait donc à banaliser les regards, puisse se faire. Le tout, c'est juste une histoire de vivre ensemble. Et pour que ce vivre ensemble puisse avoir lieu, il faut que les lieux publics le soient.
Dont acte, c'est dit et bien dit. Avant qu'on marque une pause, Frédéric Zetoun, pour qualifier votre relation, vous m'avez expliqué que par respect, vous avez du mal à dire qu'Enrico est un ami et qu'en réalité, vous le considérez plus comme un guide. Qu'est-ce que revêt ce terme ?
Non, mais ami, d'abord, on a quelques années d'écart. Non, mais moi, c'est vrai que c'est comme un tonton que je ne connais pas. Je me répète, enfin, que je ne connaissais pas. Maintenant, je le connais. Mais c'est, oui, il y a une relation qui, pour moi, est empreinte de respect. Un ami, on peut y a une familiarité que je ne me permettrai jamais avec lui.
Une pause.
Campus revient dans un instant sur Europe 1. Campus sur Europe 1.
Julien Martin. Nous sommes toujours avec Enrico et ses amis et ses proches à la découverte de sa galaxie et quelqu'un d'autre nous attend au bout du fil. Bonjour Gégé Larose.
Bonjour.
Gégé Larose est avec nous, Enrico.
Gégé.
Gégé Larose.
C'est vrai, Gégé Larose. Tu me téléphones oui, de Tel Aviv?
Oui.
Bienvenue Gérard Aoudé. J'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre avec Enrico.
Ben écoutez, c'est de longue date, hein. J'ai connu Enrico avec mon épouse, je vais vous dire une année un peu approximative, 1976. On s'est connu à Quiberon, je le connaissais avant, j'ai adoré ses chansons. On a décidé de faire une partie de tennis.
Alors là, la partie de tennis, je m'en rappellerai toute ma vie. Hein.
Pourquoi racontez-nous.
Toute ma vie. Hein.
Non, mais celle de Quiberon, tu ne te rappelles pas.
Si, je me rappelle. Tu avais rendez-vous avec moi pour faire une partie de tennis et je t'attendais avec la raquette. Et je vois arriver Gégé Larose, le blanc, pas la rose, le blanc, Gégé le blanc, habillé avec une tenue toute neuve et une raquette, tout ça. J'ai dit, oulala, qu'est-ce que c'est? C'est un champion celui-là. C'est un champion celui-là. Et on a échangé quelques balles. Mais alors, tu étais nul.
Il avait la tenue, mais pas le jeu.
J'allais mourir de rire.
Non, mais je vais vous dire...
Quelle est votre version, Gégé Larose?
Alors, ma version, moi, c'est qu'il confond avec deux jeux de tennis. Il confond une fois à Quiberon et une fois à Eilat. Et je vais vous dire lesquels. Parce qu'il n'avait pas de raquette la fois qu'il parle, là. Il a pris la raquette de ma femme et il prend la raquette... Et dit, en prenant la raquette, il la prend comme une guitare. Donnez-moi une chance. Il s'est mis à chanter. Donnez-moi. Il n'avait pas de raquette. Et effectivement, la deuxième fois du tennis, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, c'est la deuxième fois Eilat. Et là, je suis venu habillé comme un milord. Je ne savais pas, même pas tenir la raquette à l'endroit.
C'était de l'intox.
Ah là là, qu'est-ce que tu m'as fait rire, Gégé.
Voilà, mon frère, des anecdotes que ça nous rajeunit de plusieurs années.
Oui.
De plusieurs années. Nous sommes devenus inséparables. Par la suite, j'adorais son épouse Suzy et elle nous rendait bien, aussi bien à ma femme qu'à moi-même.
Oui, il faut dire que Gérard ne manque pas une seule seconde d'aller se recueillir sur la tombe de Suzy tous les dimanches quand il est à Paris. Il y va tous les matins et il me téléphone. Et puis voilà, et ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un que je considère comme de ma famille. Lui et sa femme et ses enfants et ses petits-enfants. Voilà.
Gérard Aoudé, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que vous êtes évidemment très amis. Vous vous retrouvez aussi sur une même histoire. Vous venez tous les deux d'Algérie. Vous avez cette même sensibilité. Et puis, vous avez vécu aussi une tragédie qui vous a rapproché. C'est la perte d'un frère.
Ah, ça oui. Ah, ça, beaucoup aussi. Oui. Vous dites une chose qui est très juste. Enrico a perdu un frère et moi j'ai perdu un frère, c'est vrai. Et Suzy, en plus, elle était quand même le pilier de la famille et elle lui manque tous les jours, je vous le dis moi. Mais je connais bien Enrico, je sais, elle lui manque tous les jours. C'est pas qu'elle lui manque, je dis bien, elle lui manque tous les jours. Voilà.
Vous m'avez confié, Gérard, qu'Enrico était un être extrêmement sensible, une sensibilité qu'il cache, sa souffrance, ses douleurs, les mauvaises choses, il les garde pour lui.
Il garde tout pour lui, c'est vrai, il garde tout pour lui, il dit que les bonnes choses. Il est toujours là pour faire plaisir avec simplicité et gentillesse. Voilà, toujours. Et il est égal à lui-même pendant des années que nous sommes ensemble. C'est comme ça, c'est un grand-père, il est heureux, il est comme tout de voir son petit Simon chanter, c'est le grand bonheur, il regarde avec l'amour de incroyable.
On vous sent très ému.
Beaucoup d'émotions, je sais.
Je suis beaucoup ému. Je suis extrêmement ému, c'est vrai.
Je sais à quoi tu penses. Je sais.
Et je finis en vous disant une chose, c'est un homme de paix, hein, au grand cœur. Pour tout ça, je l'adore, voilà. Voilà, je ne peux pas vous dire plus.
Bah, c'est déjà amplement suffisant, tout est dit, à la fois dans vos mots et dans cette émotion qui vous prend. Merci infiniment d'avoir été avec
Gérard.
Nous.
Merci Gérard. Merci Gérard.
Je t'embrasse très fort.
Moi aussi, je t'embrasse, embrasse la famille.
Tout le monde vous embrasse, Gégé Larose. Tout le monde.
Merci beaucoup.
On écoute Enrico Macias avec un jeune nouvelle génération, Michael Miro, le mendiant de l'amour. À tout de suite. Enrico Macias et Michael Miro sur Europe 1 avec le mendiant de l'amour.
14h, 16h, Campus. Julia Martin sur Europe 1. Sur Europe 1. Julien Martin.
Le campus d'Enrico Macias se poursuit sur Europe 1 avec toujours à ses côtés son fils, le producteur et directeur artistique Jean-Claude Grignassia. Il y a également son petit-fils Simon, Kamel Labassi, son musicien. À ses côtés, le chroniqueur musical Frédéric Zetoun. Et Enrico, quelqu'un d'autre nous attend au téléphone cette fois. Bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
Bonjour Julie.
Comment ça va, Enrico ?
J'ai encore écouté ton interprétation de Adieu mon pays, c'est magnifique, magnifique.
Mais quelle chance, merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager ta chanson. Pour moi, c'est un grand cadeau, mais tu le sais puisque je te l'ai déjà dit. Alors voilà, bonjour à tout
merci.
Le monde.
Merci, merci d'être avec nous et bienvenue. J'aimerais, Julie, qu'on revienne, avant qu'on parle de votre album Hommage aux cultures de la Méditerranée, sur votre toute première rencontre avec Enrico. Je crois que vous ne lui avez jamais confié que vous l'aviez croisé à l'âge de 14 ans. Racontez-nous dans quelles circonstances ça s'est passé.
En fait, la première fois que j'ai croisé Enrico Macias et qu'il m'a dit un petit mot, c'était au Bataclan lors d'une soirée dont je ne me souviens pas exactement le sujet parce que c'était il y a fort longtemps. Et j'ai chanté à cette occasion, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'avais pas de maison de disque, rien, je ne sais pas trop. Et puis, il était là, je suis descendue de scène, il était sur le côté, dans la salle, attablé, parce que au Bataclan, c'était en configuration comme un peu bistrot, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il m'a dit, vous chantez très bien, mademoiselle. Et voilà, c'était donc il y a très longtemps, c'est la première fois de ma vie donc, que j'ai croisé Enrico Macias et qui m'a dit un petit mot. Quoi. Voilà.
Et on peut dire que vous avez eu le nez creux, Enrico, hein,
oui.
Avec Julie Zenati.
Oui, mais oui, j'ai eu le coup de foudre pour son talent. Elle était si jeune, 14 ans à peu près. Enfin, je ne savais même pas quel âge elle avait, mais j'ai vu très très jeune un enfant qui chantait si bien comme ça. C'était magnifique, magnifique.
Et alors Julie, la boucle est joliment bouclée aujourd'hui avec cette collaboration sur Méditerranéenne, votre nouvel album sorti en mars. Dites-nous d'ailleurs comment est né ce projet.
Alors ce projet est né d'une envie de rendre hommage tout d'abord à mon héritage familial, à mes origines. Et puis très vite, en remontant, on va dire, l'arbre généalogique, je me suis rendu compte que mes origines méditerranéennes étaient déjà elles-mêmes très mêlées, très mélangées, très liées. Et comme j'avais envie de rendre hommage à cette mer incroyable qui est le berceau de l'humanité, je me suis dit que la manière la plus respectueuse finalement de parler de la Méditerranée, c'était en partageant, en mélangeant et en se faisant rencontrer et des cultures, et des langues, et des gens, et des générations, voilà, pour parler de la mer Méditerranée. C'est comme ça que c'est né.
Alors il y a toute la générosité, la convivialité des cultures méditerranéennes, et c'est aussi un album qui parle d'itinérance et de départ.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas parler de Méditerranée et de la Méditerranée sans parler de l'exil et de l'itinérance et des voyages. Et ce sont des peuples qui ont fait de cette itinérance une richesse aussi. Et c'est probablement ça qui fait que les cultures méditerranéennes deviennent une grande culture parce qu'il y a eu cette itinérance, ces voyages qui ont fait à un moment que, par la force des choses, eh bien, on partage, on se mélange, on se raconte et du coup, on s'enrichit. Et c'est vrai que, évidemment, cet album ne pouvait pas exister sans Adieu mon pays, qui est un hymne qui est en même temps tellement encore actuel aujourd'hui et qui raconte vraiment un bout d'histoire. Et voilà, donc pour moi, quand j'ai commencé à travailler ce projet, cette chanson ne pouvait évidemment que figurer sur cet album, évidemment.
Et je voudrais citer le père d'Enrico Macias, c'est donc le grand-père de Jean-Claude. Tes chansons iront loin, car il y aura toujours des gens déplacés. L'actualité donne toujours raison à votre père, Enrico Macias.
Mon père m'a dit qu'il était au départ réticent à ce que je fasse une carrière de chanteur.
de musicien, un petit peu comme j'ai fait avec mon fils. Il m'a dit, il faut que tu aies un diplôme avant de faire de la musique. Mais quand je lui ai fait écouter Radio Mon Pays, il m'a dit, cette chanson, malheureusement, va durer très longtemps. Parce qu'il y aura tout le temps des gens déplacés, des gens qui quittent leur maison, leur famille, et puis qui cherchent un autre pays pour survivre.
Bien sûr.
C'est ce qu'on est en train de voir malheureusement encore maintenant. Quoi.
Oui.
Tristement, maintenant. Alors, une reprise, elle n'est jamais aisée pour un artiste, que ce soit pour l'auteur ou pour celui qui la transforme. Pourtant, vous dites Julie Zanatti, qu'Enrico vous a laissé rentrer dans son univers et qu'il vous a fait confiance en vous laissant l'emmener ailleurs aussi.
Oui, bien sûr, c'est toujours très délicat et d'autant plus cette chanson-là qui est tellement personnelle, qui est tellement en même temps. Enfin, réaliste. Et c'est vrai que, étant donné que moi, je ne suis pas une petite fille itinérante, moi, je suis née en France et je raconte l'histoire de ma famille, de mes parents et de mes grands-parents au travers de cette chanson. Je suis comme, finalement, comme celle qui continue à raconter le souvenir. Et voilà, c'est presque un devoir de mémoire, finalement. J'avais envie d'apporter à cette chanson, au-delà de l'émotion et de ce qu'elle raconte, vraiment ce côté arabo-andalou qui rend la musicalité de la Méditerranée tellement singulière et qui fait vraiment une part de son identité. Et du coup, ben voilà, quand on a commencé à travailler dessus, on l'a proposé à Enrico et puis surtout Jean-Claude aussi a fait des arrangements incroyables de cordes sur cette chanson, voilà, qu'il connaît par cœur. Mais je crois que voilà, il était aussi heureux de pouvoir l'emmener ailleurs. Et c'est surtout Jean-Claude nous a vraiment aidé à aller un peu loin aussi dans la manière de colorer la chanson. Et ça, c'est un grand cadeau que toute la famille nous a fait.
Une réaction, Jean-Claude Anassia?
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé les relectures de Julie, de toutes ses chansons. Bien sûr, la chanson de mon père, qui est tellement personnelle et qu'elle a réussi à endosser magnifiquement. Et j'ai beaucoup aimé ses réinterprétations qu'elle a faites. Je trouve qu'elle... Elle a donné une autre dimension à des chansons dont on ne percevait pas le sens. Elle a trouvé une autre couleur et un autre sens à plein de chansons.
Oui, c'est vrai que c'est une très, très jolie reprise. Et je dois vous dire, Julie, ce qui est très touchant également, je trouve, c'est que Enrico Macias fasse la promotion de cet album avec le cœur, comme s'il s'agissait du sien. C'est gratifiant pour vous, parce que ça veut dire que c'est une vraie reconnaissance de votre travail.
Alors vraiment, j'ai cette chance incroyable que Enrico porte l'album avec moi. Et c'est vrai que au-delà de ça, la première rencontre musicale vraiment que j'ai faite avec Enrico, c'était sur le plateau de Nagui quand on a fait Taratata. Et quand j'ai chanté avec lui, j'ai eu l'impression qui me tendait la main, mais aussi qui me disait quelque part, c'est bien, vas-y, raconte ces histoires-là. Je ne sais pas comment exprimer cette chose-là, mais pour moi, c'est beaucoup. Évidemment, j'en suis très fière, je suis très reconnaissante qu'on me reconnaisse à cet endroit-là et surtout un homme comme lui.
Comme un passage de témoin, Enrico.
Oui, mais c'est surtout, puisque tu parles, Julie, de Taratata, quand tu as chanté avec moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La même chose que lorsque je chante à Dieu mon pays, même tout seul, j'ai toujours beaucoup d'émotions au bout de 55 ans que je la chante. Mais quand tu l'as chanté, toi, ça m'a fait plaisir parce que tout ce que tu dis, tout le devoir de mémoire, pour ta famille, pour tout ça, c'est des valeurs que je défends. Et puis enfin, le fait que je fasse la promotion de ton album, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. C'est pas la promotion d'Adieu mon pays que je fais la promotion de la Méditerranée, la promotion de Julie Zanatti et de ton talent. Tu connais ma générosité quand même.
Ah bah plus que ça, bien sûr.
Générosité partagée. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Julie Zanatti. On vous souhaite le meilleur avec ce très bel album. Et on écoute tout de suite votre duo avec Chimène Badi, Zina sur Europe 1. Zina sur Europe 1, Chimène Badi, Julie Zanatti.
Europe 1, Campus, Julia Martin.
De retour dans le campus d'Enrico. Entouré de son fils Jean-Claude, de son petit-fils Simon. Il y a même des amis, je crois, qui sont venus en régie, c'est ça Simon?
Oui, exactement.
Voilà, ils sont venus applaudir la famille. Frédéric Zetoun également est avec nous. Kamel Labassi, on ne vous entend pas, mais vous êtes bien?
Très bien.
Jusqu'ici, tout va bien. D'accord. Alors, un nouvel ami se cache en coulisses. Voici un indice sonore pour deviner de qui il s'agit.
J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit tu ressembles à Françoise Hardy.
Que tu es beau, Enrico.
Vous, ça va, mettez la sourdine. Paella, tchouk-tchouka, c'est fini, bien fini pour moi.
C'est bon, la tchouk-tchouka. Oh là là, on est des gourmands dans cette émission. J'ai perdu 25 kilos.
Alors, c'est un homme ou une femme?
C'est un homme.
Ah, je croyais que c'était Valérie Lemercier, moi, parce que c'est elle qui m'a incité à la rechanter, cette chanson.
Non, ce n'est pas Valérie Lemercier.
C'est devenu chanson culte, maintenant.
Le nom de cet ami a une consonance italienne.
On mange des pâtes chez lui?
Si mangia la pasta.
La pasta?
Si.
Alors, c'est Paolo du Paparazzi.
Paolo Viglianisi qui arrive en studio.
Le patron de ma cantine. C'est un endroit merveilleux et qui est dirigé par un ami intime. Qui est devenu un ami intime, c'est Paolo qui est présent là. Paolo, je te remercie d'être venu dans mon émission.
Ça me touche.
Mais tu as choisi cette chanson, pourquoi? Tu ne me l'as jamais chantée. Tu es maigre.
Parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle raconte une belle histoire.
Alors, ah oui, c'est vrai.
Paolo,
c'est vrai.
Merci beaucoup d'être avec nous ce dimanche, parce que je sais que vous êtes plutôt timide.
Tout va
très bien se passer, on est bien, on est tranquille. Le public, on rassure Paolo, on est bien.
Oui. Voilà.
Alors, il a dit le nom du restaurant, c'est le Paparazzi, c'est exactement au 6 square de l'Opéra Louis Jouvet à Paris, dans le 9e arrondissement, on est d'accord?
C'est ça, oui.
Alors, racontez-nous votre première rencontre avec Enrico Macias.
Ah ben, c'est grâce à Josia, sa fille, qui, enfin, il sortait de l'Olympia. Et après, ils sont venus dîner chez moi, et puis après...
Voilà, c'est grâce à mes enfants que je fais de la musique, mes petits-enfants,
voilà.
Et aussi que je mange des pâtes.
Voilà, mais voilà, puis on se réunit, puis on vit des moments incroyables.
Je raconte des histoires.
Dans le petit salon?
Oui, dans le petit salon, et puis on regarde les matchs de foot, on se raconte des trucs. Et...
Vous dites d'Enrico qu'il est tout le temps dans la simplicité, que c'est quelqu'un de vrai, d'authentique, il n'a pas changé, et c'est ce que vous aimez particulièrement.
Oui, c'est une personne qui est vraie et qui a toujours passé son temps à s'occuper des gens, et il aime les gens, il est resté d'un naturel.
Il les ressent, les gens?
Oui, il les ressent. Et quand il les aime, il les aime.
Mmh.
Enfin, il faut que ça lui ressemble aussi. De passer des bons moments, de rigoler.
Et puis c'est ce que vous aimez justement, votre ami, qui raconte des anecdotes sur les tournées, sur les rencontres. En plus, vous dites qu'il a un talent de conteur.
Et il a connu tout le monde. Des générations qui font que les gens sont marqués par ça. Et moi, ça me touche, et voilà. Il suffit de le regarder pour qu'on rentre dans l'histoire.
Ouais.
Mais il faut dire aussi que Paolo a oublié de dire que non seulement il fait des bonnes pâtes, mais c'est un accordéoniste chevronné.
Oui, en plus, voilà.
Donc vous jouez ensemble aussi?
On n'a jamais joué, mais de temps en temps.
J'ai connu son premier. Tu n'as qu'à dire qu'on a joué
tu
ensemble.
Dis oui. Tu dis on a joué. Voilà, on n'était pas là, on ne peut pas vérifier.
Oui, voilà.
Je fais passer pour un menteur.
Non, mais
on aime rigoler.
Mais oui, mais c'est bien.
C'est ça.
Dites-moi, Enrico, justement, ce restaurant, j'ai l'impression que c'est un repère. Vous aimez avoir un QG ou retrouver
vos
amis?
J'aime bien avoir mes copains autour de moi. Parce que lui, maintenant, malheureusement, il est arrivé un petit accident dans ce salon. En dehors du restaurant, il avait un petit salon où on se réunissait tous.
Ouais.
On voyait des matchs de foot.
Oui, qui complétait le restaurant.
Nous,
on se mettait là et voilà.
On
passait des bons moments, manger là. Et puis...
Dis-moi, quand tu as choisi cette chanson, j'ai perdu 25 kilos, j'ai envie de faire quelque chose sous le couvert de mon fils. J'ai envie de la chanter à l'Olympia la prochaine fois. La prochaine fois.
Jean-Claude, quel est votre avis?
J'ai repris 25 kilos.
Ouais. Non, tu vas comprendre comment je vais la chanter. Voilà. J'ai l'habitude de rentrer sur scène. J'ai imaginé quelque chose. J'ai l'habitude de rentrer sur scène en chantant une chanson. Eh bien là, non. Je vais rentrer sur scène, dans le silence complet, sans musique ni rien du tout.
Voilà.
les gens ne comprennent pas pourquoi je reste debout comme ça, silencieux. Je crois que c'est, je leur demande une minute de silence, sinon rien du tout.
Enrico se lève donc. Ouais, voilà. J'explique aux auditeurs qui nous écoutent,
oui,
vous êtes debout.
Oui. Alors après, je leur dis, je prends le micro, je leur dis, écoutez, je ne suis pas narcissique. J'aime pas me regarder devant une glace. Mais comment vous me trouvez? Alors les gens vont me répondre. Beau, pas beau, je sais pas.
Mais magnifique. Non, beau,
mais
beau.
Si c'est beau,
extraordinaire.
Beau. Ah, alors comment vous me trouvez?
Beau.
Vous savez pourquoi? J'ai perdu 25 kilos. Mais madame, j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Comme tu es beau,
Enrico.
Vous, ça va, mettez la sourdine. Paella,
chouchouka.
C'est fini, bien fini pour moi. Aïe, 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 ce fut dur. J'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat. Le régime est passé par là.
Ah. Ouais. Merci pour ce petit live à Pénine sur Europe 1.
Europe 1, Campus. Campus sur Europe 1. Julien Martin.
Le campus de notre invité ce dimanche, Enrico Macias, que l'on découvre mieux grâce à ses amis, à ses proches et vos réactions comme tous les dimanches sur Twitter avec le hashtag Un Campus et sur la page Facebook de l'émission. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien à cette nouvelle émission qui, tous les dimanches, fait partie des sujets les plus commentés en France sur Twitter. Donc déjà, mille merci. Merci parce que les audiences sont tombées et qu'on est dans le vert. On fait plus 58%. C'est un véritable cadeau que vous me faites et que vous faites à mon équipe. Enrico Macias, j'aimerais que vous regardiez les visages du public. Est-ce que vous en reconnaissez certains?
Ah ben, je connais déjà Gisèle, qui vient me voir à tous les spectacles. Tous les spectacles.
Et Gisèle, ouais. C'est l'incarnation du public, puisque le public est composé par des gens qui vous aiment, qui vous suivent depuis de nombreuses années et à qui j'aime donner la parole le dimanche. Ce sont vos amis virtuel. Et on commence tout de suite par la première question, celle de Daniel. Bonjour.
Bonjour Enrico.
Bonjour Daniel.
Elle est émue.
Qui est pour vous le plus grand chanteur de cette nouvelle génération, s'il vous plaît?
Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais le plus grand, la nouvelle génération, c'est-à-dire pour moi, le plus grand chanteur, c'est Jean-Jacques Goldman.
C'est vrai. Il manque Jean-Jacques Goldman. Vous êtes d'accord Enrico Macias? On aimerait qu'il puisse revenir. Vous pensez qu'il va revenir avec une nouvelle proposition? Puis je parle aussi avec Frédéric Zetoun, qui est un chroniqueur musical et qui a ses infos. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric?
Je crois que Jean-Jacques Goldman ne reviendra pas. Enfin, il a dit clairement...
Mais il ne reviendra pas. Pourquoi il est parti?
Il ne veut plus chanter.
Il ne veut plus chanter.
Il veut composer pour les autres, ce qu'il fait, la magnifique chanson qu'il a offert à Céline Dion.
Mais
il
enfin, ce qu'il a déjà fait, c'est déjà
magnifique,
monumental.
C'est magnifique.
Bon, il ne reviendra pas en tant qu'interprète. Bon,
vous savez, je ne l'ai pas au téléphone avant-hier.
A priori, c'est la tendance. Mais je crois que vous connaissiez tout le monde. Le micro tourne dans la salle et on le passe maintenant à Marie.
Oui, bonjour Enrico. Quel est votre souhait le plus cher aujourd'hui?
C'est que la paix règne dans les cœurs des êtres humains sur cette planète, et en particulier en France, où on traverse des moments assez difficiles et dangereux. Et je souhaite que tout se passe bien dans le cœur des gens, que les gens soient un peu mieux dans cette vie, qu'ils aient un niveau de vie un peu plus élevé, et qu'ils soient heureux, quoi.
Enrico, vos amis, vos proches aussi ont des questions, des messages qu'ils n'ont jamais osé vous poser. Il y en a 4 et je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 4.
3.
Le 3, c'est votre petit-fils Simon qui est à côté de vous. Quel est le métier que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas été chanteur?
Avant d'être chanteur, j'étais dans l'enseignement. J'aurais continué à être dans l'enseignement, sûrement.
Toujours la transmission. Alors Enrico, sur Europe 1, dans Campus, vous le savez, les surprises se poursuivent. C'est une véritable farandole avec quelqu'un qui nous attend au téléphone. Bonjour Michel Boujna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Je l'entends rire, il me fait rire.
Bah oui. Racontez-nous votre rencontre avec Enrico.
Est-ce que vous avez vu comme il est beau quand il rit d'abord?
Il est magnifique.
C'est lui le plus gros chanteur.
Ah,
c'est
merci.
Lui le plus beau
merci,
chanteur.
Merci,
c'est lui.
Merci, merci Michel.
Est-ce que vous avez vu ce corps d'albâtre qu'il a d'abord?
Exceptionnel. Extraordinaire.
Il a un seul défaut. Un seul.
C'est quoi?
Il n'est pas né en Tunisie, c'est tout.
Ah
À part ça, il est parfait. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés, c'est très émouvant. Il m'a invité à une émission sur France 3. Et il avait vu mon premier spectacle il y a très longtemps, hein, il y a 27 ans à peu près. Et il m'a dit, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas échapper à ce que tu viens de faire, ni échapper à ce que tu es. Eh bien, il avait raison. Avec une grande tendresse, une grande intelligence, pour quelqu'un qui est né en Algérie, c'est vraiment très intelligent.
Dès qu'il peut le placer, hein, il y va. Hein.
Vas-y, Tunisien, va.
Et ça m'a beaucoup touché, j'ai jamais oublié. Et puis à chaque fois qu'on s'est retrouvés, dans différentes occasions, à chaque fois j'avais toujours en mémoire ce moment-là et le plaisir de le retrouver. En plus des chansons qui étaient fondamentalement importantes dans ma vie de jeune homme qui a quitté son pays à 11 ans, et qui est arrivé en France. Et il y avait une joie à chaque fois de le retrouver. Et il a tellement d'empathie pour les autres. Il est tellement proche des autres. Il dégage tellement de tendresse que maintenant j'ai pris l'habitude de le prendre dans mes bras. Croyez-moi, c'était une chose impossible au départ. Et maintenant, il est, c'est un compagnon, c'est un grand frère. On est très très différents, on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout la même formation. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse et de la reconnaissance mutuelle qui fonctionne. Et ça me fait du bien.
Merci.
En plus, on aime les mêmes gens. Lui a un premier cercle où il y a des gens très très proches de lui, et parmi ces gens-là, il y en a deux au moins qui sont très 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 proches de moi aussi. Donc en fait, j'ai tout le temps des nouvelles de lui, même quand j'en veux pas.
Vous en avez quand même une réaction, Enrico Macias.
Oui, je sais de qui tu veux parler, de Charlet Marouani et de Régis Tallard.
Bien sûr.
Avec qui on se réunit tout le temps en Corse. Moi, ce que j'aime chez Michel, c'est qu'il a jamais changé. À chaque fois que je connais quelqu'un qui débute et puis qui va réussir après, j'ai toujours peur qu'il ait la grosse tête. Et bien lui, il n'a jamais eu la grosse tête, il est d'une intelligence rare. Parce qu'avoir la grosse tête, c'est un signe de bêtise. Et lui, il est resté simple et talentueux. Et je suis content d'avoir été un petit peu au début de sa carrière. Je l'avais invité donc dans cette grande émission de France 3. Et je lui avais prédit cette carrière, c'est vrai.
Vous sentiez déjà le potentiel ?
Ah oui, oui. Ben d'abord, je dois dire que c'est Suzy qui l'a découvert. Elle a aimé son spectacle qu'il faisait à l'époque. Elle m'a fait connaître Michel Boujnah comme ça. Puis après, je l'ai invité donc dans cette émission. Et là, je lui ai dit qu'il allait aller loin.
Michel Boujnah ?
Mais c'est pas vrai, hein, ce qu'il dit sur la grosse tête. Hein. C'est parce qu'au départ, elle était toute petite, ma tête.
Michel ? Vous m'avez dit l'importance qu'Enrico a eue dans votre vie, notamment dans le fait de savoir d'où l'on vient pour avancer.
Exactement. On ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. C'est impossible. C'est impossible.
Bravo.
Après, on construit des mensonges. On construit des mensonges aux yeux des autres et on construit des mensonges à ses propres yeux. Il y a des gens qui ont tellement menti qu'à la fin, ils s'imaginent vraiment que ce qu'ils disent, qu'ils sont, ils sont. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais été ça. Et ça les détruit de l'intérieur. Ouais. Mais l'autre chose qui est très importante sur Enrico Macias, qu'il faut que tout le monde sache,
dites-nous,
le public, les auditeurs, les journalistes, tout le monde, c'est que il a une collection de pyjamas.
Tu m'attendais à tout sauf à ça.
Non, mais moi, j'ai pas voulu en parler. J'étais laissé. J'étais sûr que tu allais parler du pyjama.
Ils sont comment ces pyjamas?
Une merveille. Il peut monter les marches de cam avec. Ils sont plus beaux que des smokings, je vous jure. Je ne veux pas faire de mauvaises références, mais plus beau que certains costumes, en tout cas. Il a, vous savez pourquoi il a des pyjamas extraordinaires? Parce que c'est un homme, je l'envie, je suis jaloux pour ça, vous ne pouvez pas imaginer. Il peut dormir, vous le mettez au lit à minuit, vous revenez 3 jours après, à minuit. Si vous ne le réveillez pas, il dort encore.
Il dort comme un bébé.
Il ne dort pas comme un bébé, comme plusieurs bébés. Il dort comme une nursery.
C'est vrai que j'aime dormir, mais pas dans l'exagération habituelle de Michel.
Oui, hein, pas 3 jours. Voilà. Merci Michel Boujnah d'avoir été avec nous.
Merci Michel.
Je vous embrasse. T'embrasse.
Dernière pause, à tout de suite sur Europe 1.
Campus sur Europe 1.
Julien Martin.
De retour dans le campus d'Enrico Macias, dernière séquence. Enrico, vos amis louent votre forme physique, votre énergie à 78 ans. C'est quoi votre secret de forme? Est-ce que vous faites de l'exercice pour vous entretenir, essayer de conserver cette tonicité?
J'ai eu la chance de faire, j'ai arrêté maintenant depuis à peu près 8 ans. Je faisais beaucoup de sport. Je courais tous les jours entre 10, 15 kilomètres, parfois 20. Je faisais du footing, je faisais donc beaucoup de sport. Je pense que je bénéficie du fait que j'ai fait beaucoup de sport. Là maintenant, j'ai décidé, parce que je me suis arrêté pendant un certain temps de m'occuper de ma personne, mais maintenant je commence un peu à refaire attention, oui, je recommence. Là je fais de l'exercice physique, j'ai un coach qui vient à la maison. Et puis, je fais un peu d'exercice.
Mmh. Il paraît que vous êtes un bon vivant, mais que vous prêtez aussi une grande attention à votre alimentation.
Oui, c'est une souffrance, parce que j'aime tellement bien manger que je suis obligé de me restreindre par moment. Et je fais le régime et tout ça, c'est dur. Non, je regardais Paolo pour les pâtes.
Paolo fait les gros yeux, Frédéric Zetoun et Jean-Claude sont morts de rire.
Non, il est gentil parce qu'il sait quand je fais le régime, il ne me donne pas de pâtes, il me donne des légumes.
Mmh. Ça, c'est bien, il fait attention à vous. Est-ce que vous lisez des livres de médecine, justement, aussi, pour essayer de prendre quelques informations, quelques éléments que vous pouvez mettre en pratique dans le quotidien?
Oui, je lis des informations, surtout dans les journaux, dans les magazines, dans les journaux. Il y a tout le temps des bonnes informations, c'est vrai.
Alors vous savez, Enrico, dans Campus, on aime créer du lien. Et c'est pour ça qu'on présente à nos invités quelqu'un qui potentiellement pourrait être ami avec lui. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Frédéric Salman. Bonjour.
Ah. Bonjour.
Vous êtes cardiologue Bonjour. Et nutritionniste et vous avez publié des best-sellers, Le meilleur médicament, c'est vous, et Prenez votre santé en main, qui ont réuni plus de 3 millions de lecteurs. Et vous venez de sortir en février dernier Votre santé sans risque chez Albin Michel. Alors avec Enrico, je crois que vous vous êtes déjà croisé une fois. Racontez-nous dans quelles circonstances, Frédéric.
Oh ben on a le même coiffeur qui s'appelle Delacre et on a eu l'occasion de se croiser tout simplement chez le coiffeur. Et moi, j'ai eu le bonheur de voir Enrico sur scène à l'Olympia, et j'ai vu à quel point c'est un jeune homme, à quel point il bougeait vite. Et quand j'entendais à l'instant qu'au niveau du sport, vous avez levé le pied, alors là, il faut surtout vite reprendre, se remettre en selle. Je vous dire un truc, si vous faites 30 minutes d'exercice physique par jour, tous les jours, sans vous arrêter, on diminue de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, c'est un vrai bouclier. À condition de ne pas s'arrêter, les 20 premières minutes, on brûle du sucre. C'est seulement après qu'on brûle les mauvaises graisses et qu'on libère, tenez-vous bien, 1004 molécules protectrices.
Ah, merci, docteur, de nous avoir dit ça. Non, c'est vrai, c'est très, très bien. Mmh. C'est très vrai. Moi, quand je faisais du footing, j'ai jamais été malade. Mmh. Jamais. Et
oui,
grâce à Dieu, maintenant,
augmente.
Moi aussi, non.
Oui.
Grâce au sport.
Mais rester constamment en mouvement, c'est pour se recharger et, comme vous le dites, retarder le vieillissement, en fait, docteur Salman.
Oui, parce que vous savez, on est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. D'ailleurs, Einstein disait, la vie, c'est comme la bicyclette, si on arrête de pédaler, on tombe. Donc, moi, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc, si on veut jouer les prolongations en bonne santé, il y a quelques règles à suivre. L'exercice physique, quotidien, c'est essentiel. Mmh. L'alimentation aussi. Et je vais dire une chose à Enrico, on peut mincir en mangeant des bonnes choses. Et les médicaments pour maigrir sont dans l'armoire de la cuisine. Et je peux vous donner plein d'exemples qui vous aideront à être mince, beau comme un jeune premier, sans souffrir.
Bah, donnez-nous un exemple, là, on en profite.
Eh bien, écoutez, je vous en donne un premier. Quand vous vous mettez à table, si vous voulez perdre du poids, commencez par le dessert. Si vous commencez par le dessert, vous activez ce qu'on appelle la glucokinase. Ça envoie un signal comme quoi la fête est finie avant qu'elle commence. Prenez par exemple une banane avec du chocolat noir 100%. Le chocolat noir fait baisser les hormones de l'appétit comme la gréline. Et on s'arrête net, c'est un arrêt sur image.
Ah, c'est magnifique.
Et si je commence par un millefeuille, alors
Ça passe pas, docteur, le millefeuille, ça passe? Non,
non, mais le millefeuille va produire aussi un effet. Mais on peut prendre deux carrés de chocolat noir 100% avec, mais le millefeuille produira l'effet, c'est-à-dire qu'essayez de manger ensuite un steak frites béarnaise derrière, vous n'y arriverez pas. Mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a plein de coupe-faim naturelles qui fonctionnent. Il y a par exemple de prendre des sardines. On les garde 9 heures dans l'estomac, c'est comme les poivrons. Mmh. Et on ne grignote pas de la journée. Il y a énormément de petites choses comme ça. Vous avez aussi la sauce pesto qui contient des pignons de pain qui coupent l'appétit. Il y a énormément de petites choses.
Alors, on a pris des notes, hein, docteur Tselman. On a pris des notes.
J'en ai plein.
Mais dites-moi, vous... ouais, est-ce que vous auriez des petites recettes, justement, spéciales pour Enrico Macias qu'on pourra lui transférer par la suite?
Alors, écoutez, moi, je lui propose, quand il veut, on se rencontre et je lui ferai un régime sur mesure adapté à ses goûts.
Merci, c'est ce que je vais faire.
Jean-Claude, le fils d'Enrico, vient de dire super.
Ah oui, oui.
Voilà, donc, ah, c'est une invitation pour qu'on échange et je vais vous construire une nutrition pour vos 120 prochaines années.
Exactement, bon, on est content. Vous savez, docteur, je donne votre livre, Votre santé sans risque, vous êtes une force de la nature sans le savoir, aux éditions Albin Michel. Je le confie à Enrico Macias.
Eh ben, écoutez, c'est
avant la rencontre en vrai, et puis je transférerai évidemment vos coordonnées à Enrico afin que cette rencontre se passe dans le réel, autour d'un bon petit café. Ah, mais
exactement, pour de vrai, parce que d'habitude, il faut 2 ans pour me voir. Je suis un peu occupé, mais là, en priorité, parce que j'ai tellement de plaisir à écouter son spectacle, que j'ai envie que ça continue longtemps, et je lui donne une recette de nutrition. Il va devenir une vraie force de la nature.
Jusqu'à 120 ans au moins, j'ai perdu 25 kilos.
Je vous la dédie, cette chanson. Hein.
C'est un signe prémonitoire.
Merci, docteur, merci d'avoir été avec nous ce dimanche.
Merci, docteur, merci.
Et de ce cadeau et de cette surprise à Enrico Macias. Merci d'avoir participé, Enrico, à ce 35e numéro de Campus Nouvelle Génération. Merci de vous être dévoilé grâce à votre galaxie amicale.
Mais c'est grâce à vous aussi, Julia, votre gentillesse, votre tendresse, votre chaleur humaine. Et puis, merci à tous mes invités de m'avoir honoré aujourd'hui. Et puis aussi au public. Parce que sans vous, on ne serait rien. Voilà.
Je vous embrasse bien fort, Enrico. Vous revenez quand vous voulez. Vous savez, ce micro, ici, vous êtes chez vous. Je voudrais embrasser les gens qui nous écoutent à la maison. Je voudrais vous embrasser, vous, dans le public, qui êtes si fidèles. Un baiser spécial à ma meilleure amie. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. C'est mon âme sœur, Ilanit. Et cette émission, elle est en grande partie grâce à elle, puisqu'elle m'a donné l'idée de ce programme. J'embrasse mon équipe.
Merci, Ilanit.
Passez une belle semaine. Et n'oubliez pas, le nom d'ami est courant, mais l'ami fidèle est chose rare. J'ai perdu 25 kilos.